You see, I can't breathe. Oh, look. No. What's up? Heavy, I can't swim. Oh, unless it's down the sea. So come show, Lola. Show me what you got.
J'entends les alouettes.
J'entends les alouettes.
Après une présentation du deuxième sexe de Simone de Beauvoir dans l'émission de la semaine dernière, je vous propose de continuer une lecture du deuxième sexe avec un petit passage sur le point de vue psychanalytique dans le deuxième chapitre. Ainsi, on verra qu'il y a différents volets à ce livre. Il retrouve toute son actualité aujourd'hui dans les débats sur le genre, notamment dans le système scolaire, les représentations associées aux femmes, à leur rôle, à leur statut, bref, à leur place dans l'existence humaine. C'est ainsi que beaucoup d'hommes affirment, avec une quasi bonne foi, que les femmes sont égales de l'homme et qu'elles n'ont rien à revendiquer, et en même temps que les femmes ne pourront jamais être les égales de l'homme et que leurs revendications sont vaines. C'est qu'il est difficile à l'homme de mesurer l'extrême importance de discrimination sociale qui semble du dehors insignifiante et dont les répercussions morales, intellectuelles sont dans la femme si profondes qu'elles peuvent paraître avoir leur source dans une nature originelle. Décrire ce processus sera précisément l'objet du volume 2 de cette étude. L'homme qui a le plus de sympathie pour la femme ne connaît jamais bien sa situation concrète. Aussi n'y a-t-il pas lieu de croire les mâles quand il s'efforce de défendre les privilèges dont il ne mesure même pas toute l'étendue. Ne nous laisserons donc pas intimider par le nombre et la violence des attaques dirigées contre les femmes, ni circonvenir par l'éloge intéressé qui sont décernés à la vraie femme, ni gagner par l'enthousiasme qu'il suscite sa destinée chez les hommes qui ne voudraient pour rien au monde la partager. Cependant, nous ne devons pas considérer avec moins de méfiance les arguments des féministes. Bien souvent, le souci polémique leur ôte toute valeur. Si la question des femmes est si oiseuse, c'est que l'arrogance masculine en a fait une querelle. Quand on se querelle, on ne raisonne plus bien. Ce qu'on a cherché inlassablement à prouver, c'est que la femme est supérieure, inférieure ou égale à l'homme. Créée après Adam, elle est évidemment un être secondaire, on dit les uns. Au contraire, on dit les autres, Adam n'était qu'une ébauche et Dieu a réussi l'être humain dans sa perfection quand il a créé Ève. Son cerveau est le plus petit, mais il est relativement le plus grand. Le Christ s'est fait homme, c'est peut-être par humilité. Chaque argument appelle aussitôt son contraire et souvent tous deux portent à faux. Si on veut tenter d'y voir clair, il faut sortir de ses ornières, il faut refuser les vagues notions de supériorité, infériorité, égalité qui ont perverti toutes les discussions et repartir à neuf. Il faut repartir à neuf. Mais alors, comment poserons-nous la question ? Et d'abord, qui sommes-nous pour la poser ? Les hommes sont jugés partis, les femmes aussi. Où trouver un ange ? En vérité, un ange serait mal qualifié pour parler. Il ignorerait toutes les données du problème. Quant à l'hermaphrodite, c'est un cas bien particulier. Il n'est pas à la fois homme et femme, mais plutôt ni homme ni femme. Je crois que pour élucider la situation de la femme, ce sont encore certaines femmes qui sont le mieux placées. L'anatomie, c'est le destin, disait Freud. À ce mot fait écho celui de Merleau-Ponty. Le corps, c'est la généralité. L'existence est une à travers la séparation des existants. Elle se manifeste dans des organismes analogues. Il y a donc des constantes dans la liaison de l'ontologique et du sexuel. À une époque donnée, les techniques, la structure économique et sociale d'une collectivité découvrent à tous ses membres un monde identique. L'immense progrès que la psychanalyse a réalisé sur la psychophysiologie, c'est de considérer qu'aucun facteur n'intervient dans la vie psychique sans avoir revêtu un sens humain. Ce n'est pas le corps objet décrit par les savants qui existe concrètement, mais le corps vécu par le sujet. La femelle est une femme dans la mesure où elle s'éprouve comme telle. Il y a des données biologiquement essentielles et qui n'appartiennent pas à sa situation vécue. Ainsi, la structure de l'ovule se n'y reflète pas. Au contraire, un organe sans grande importance biologique tel que le clitoris y joue un rôle de premier plan. Ce n'est pas la nature qui définit la femme, c'est celle-ci qui se définit en reprenant la nature à son compte dans son affectivité. Dans cette perspective, s'est édifié tout un système. Nous n'entendons pas ici le critiquer dans son ensemble, mais seulement examiner sa contribution à l'étude de la femme. Ce n'est pas une entreprise facile que de discuter la psychanalyse. Comme toutes les religions, christianisme, marxisme, elle se montre, sur un fond de concepts rigides, d'une souplesse gênante. Tantôt les mots y sont pris dans leurs sens les plus réduits, le terme phallus par exemple, désignant très exactement cette excroissance charnue qu'est un sexe mâle, tantôt indéfiniment élargi, ils prennent une valeur symbolique, le phallus expérimenterait et exprimerait tout l'ensemble du caractère et de la situation virile. Si on attaque la lettre de la doctrine, la psychanalyse prétend qu'on en méconnaît l'esprit. Si on en approuve l'esprit, il veut aussitôt vous enfermer dans la lettre. La doctrine n'a pas d'importance, dit celui-ci. La psychanalyse est une méthode, mais le succès de la méthode fortifie le doctrinaire dans sa foi. D'ailleurs, où rencontrer le vrai visage de la psychanalyse sinon chez les psychanalystes? Mais parmi ceux, comme parmi les chrétiens et les marxistes, il existe des hérétiques. Et plus d'un psychanalyste a déclaré que les pires ennemis de la psychanalyse, ce sont les psychanalystes. En dépit d'une précision scolastique souvent pédante, beaucoup d'équivoques n'ont pas été discutés. Comme l'ont fait remarquer Sartre et Merleau-Ponty, la proposition « la sexualité est coextensive à l'existence » peut s'entendre de deux manières très différentes. On peut vouloir dire que tout avatar de l'existant a une signification sexuelle ou que tout phénomène sexuel a un sens existentiel. Entre ces deux affirmations, une conciliation est possible. Mais souvent, on se borne à glisser de l'une à l'autre. D'ailleurs, dès que l'on distingue sexuel et génital, la notion de sexualité devient floue. Le sexuel, chez Freud, c'est l'aptitude intrinsèque à déclencher le génital, dit Dalbiès. Mais rien de plus trouble que l'idée d'aptitude, c'est-à-dire de possible. Seule la réalité fait la preuve indubitable de la possibilité. Freud a refusé, n'étant pas philosophe, de justifier philosophiquement son système. Ses disciples prétendent que, par là, il élude toute attaque d'ordre métaphysique. Cependant, il y a derrière toutes ces affirmations des postulats métaphysiques. Utiliser son langage, c'est adopter une philosophie. Ce sont ces confusions mêmes qui, rendant la critique malaisée, l'exigent. Freud ne s'est pas beaucoup soucié du destin de la femme. Il est clair qu'il en a calqué la description sur celle du destin masculin, dont il s'est borné à modifier quelques traits. Avant lui, le sexologue Maragnon avait déclaré En tant qu'énergie différenciée, la libido est, peut-on dire, une force de sens viril. Nous en dirons autant de l'orgasme. Selon lui, les femmes qui atteignent l'orgasme sont des femmes viriloïdes. L'élan sexuel est à sens unique et la femme est seulement à moitié chemin. Il est curieux de retrouver cette théorie chez D.H. Lawrence dans Le serpent à plumes. Don Cipriano prend soin que sa maîtresse n'arrive jamais à l'orgasme. Elle doit vibrer en accord avec l'homme, non s'individualiser dans le plaisir. Freud ne va pas jusque-là. Il admet que la sexualité de la femme est aussi évoluée que celle de l'homme, mais il ne l'étudie guère en elle-même. Il écrit « La libido est de façon constante et régulière d'essence mâle, qu'elle apparaisse chez l'homme ou chez la femme. » Freud refuse de poser dans son originalité la libido féminine. Elle lui apparaîtra donc nécessairement comme une déviation complexe de la libido humaine en général. Celle-ci se développe d'abord, pense-t-il, d'une manière identique dans les deux sexes. Tous les enfants traversent une phase orale qui les fixe au sein maternel, puis une phase anale, et enfin, ils atteignent une phase génitale. C'est à ce moment qu'ils se différencient. Freud a mis en lumière un fait dont on n'a pas reconnu avant lui toute l'importance. L'érotisme masculin se localise définitivement dans le pénis, tandis qu'il y a chez la femme deux systèmes érotiques distincts. L'un clitoridien qui se développe au stade infantile et l'autre vaginal qui ne s'épanouit qu'après la puberté. Quand le garçon arrive à la phase génitale, son évolution est achevée. Il faudra qu'il passe de l'attitude auto-érotique, où le plaisir est visé dans sa subjectivité, à une attitude hétéro-érotique qui liera le plaisir à un objet, normalement la femme. Ce passage se produira au moment de la puberté à travers une phase narcissique, mais le pénis demeurera, comme dans l'enfance, organe érotique privilégié. La femme devra, au travers le narcissisme, objectiver sur l'homme sa libido. Mais le processus sera beaucoup plus complexe parce qu'il faudra que du plaisir clitoridien, elle passe au plaisir vaginal. Il n'y a qu'une étape génitale pour l'homme, tandis qu'il y en a deux chez la femme. Elle risque bien davantage de ne pas arriver au bout de son évolution sexuelle, de demeurer au stade infantile, ou en conséquence de développer des névroses. Déjà au stade auto-érotique, l'enfant s'attache plus ou moins fortement à un objet. Le garçon se fixe sur sa mère et veut s'identifier à son père. Il s'effraie de cette prétention. Et il craint que pour l'en punir, son père ne le mutile. Du complexe d'Œdipe naît le complexe de castration. Il développe alors des sédiments d'agressivité à l'égard du père, mais en même temps, il intériorise son autorité. Ainsi se constitue le surmoi qui censure les tendances incestueuses. Ces tendances sont refoulées, le complexe est liquidé, et le fils est délivré du père. Qu'il en a en fait installé en lui-même, sous la figure de la règle morale, des règles morales. Le surmoi est d'autant plus fort que le complexe d'Œdipe a été défini et plus rigoureusement combattu. Freud a d'abord décrit la manière tout à fait symétrique l'histoire de la fillette. Ensuite, il a donné à la forme féminine du complexe infantile le nom de complexe d'Électre. Mais il est clair qu'il l'a défini moins en lui-même qu'à partir de sa figure masculine. Il admet cependant les deux une différence très importante. La petite fille a d'abord une fixation maternelle alors que le garçon n'est à aucun moment attiré sexuellement par le père. Cette fixation est une survivance de la phase orale. L'enfant s'identifie alors au père, mais vers l'âge de 5 ans, Elle découvre la différence anatomique des sexes et elle réagit à l'absence de pénis par un complexe de castration. Elle s'imagine avoir été mutilée et en souffre. Elle doit alors renoncer à ses prétentions viriles. Elle s'identifie à la mère et cherche à séduire son père. Complexe de castration et complexe d'Électre se renforcent l'un l'autre. Le sentiment de frustration de la fillette est d'autant plus cuisant qu'aimant son père, elle se voudrait semblable à lui et inversement, ce regret fortifie son amour. C'est par la tendresse qu'elle inspire au père qu'elle peut compenser son infériorité. La fille éprouve à l'égard de sa mère un sentiment de rivalité, d'hostilité, puis chez elle aussi, le surmoi se constitue, les tendances incestueuses sont refoulées, mais le surmoi est plus fragile. Le complexe d'Électre est moins net que l'Œdipe, du fait que la première fixation a été maternelle. Et puisque le père était lui-même l'objet de cet amour qu'il condamnait, ses interdits avaient moins de force que dans le cas de fils rival. Comme son évolution génitale, on voit bien l'ensemble du drame sexuel est plus complexe pour la petite fille que pour ses frères. Elle peut être tentée de réagir au complexe de castration en refusant sa féminité, en s'entêtant à convoiter un pénis et à s'identifier au père. Cette attitude la conduira à demeurer au stade clitoridien, à devenir frigide ou à se tourner vers l'homosexualité. Les deux reproches essentiels que l'on peut adresser à cette description viennent du fait que Freud l'a calqué sur le modèle masculin. Il suppose que la femme se sent un homme mutilé, mais l'idée de mutilation implique une comparaison et une valorisation. Beaucoup de psychanalystes admettent aujourd'hui que la fillette regrette le pénis sans supposer cependant qu'elle en ait été dépouillée. Ce regret n'est pas si général, et il ne saurait naître d'une simple confrontation anatomique. Quantité de petites filles ne découvrent que tardivement la constitution masculine, et si elles la découvrent, c'est seulement par la vue. Le garçon a de son pénis une expérience vivante qui lui permet d'en tirer un orgueil, de l'orgueil, mais cet orgueil n'a pas un corrélatif immédiat dans l'humiliation de ses sœurs, car celles-ci ne connaissent l'organe masculin que de son extériorité. Cette excroissance, cette fragile tige de chair, peut ne leur inspirer que de l'indifférence et même du dégoût. La convoitise de la fillette, lorsqu'elle apparaît, résulte d'une valorisation préalable de la virilité. Freud la prend pour accordée, alors qu'il faudrait en rendre compte. D'autre part, faute de s'inspirer d'une description originale de la libido féminine, la notion de complexe d'Électre est très vague. Déjà chez les garçons, la présence d'un complexe d'Œdipe d'ordre proprement génital est loin d'être générale. Mais sauf de très rares exceptions, on ne saurait admettre que le père soit pour sa fille une source d'excitation génitale. Un des grands problèmes de l'érotisme féminin, c'est que le plaisir clitoridien s'isole. C'est seulement vers la puberté, en liaison avec l'érotisme vaginal, que se développe dans le corps de la femme quantité de zones érogènes. Dire que chez un enfant de 10 ans, les baisers et caresses du père ont une aptitude intrinsèque à déclencher le plaisir clitoridien, c'est une assertion qui, dans la majorité des cas, n'a aucun sens. Si on admet que le concept, que le complexe d'Électre n'a qu'un caractère affectif très diffus, Alors, on pose toute la question de l'affectivité que le freudisme ne nous donne pas les moyens de définir dès qu'on la distingue de la sexualité. De toute manière, ce n'est pas la libido féminine qui divinise le père. La mère n'est pas divinisée par le désir qu'elle inspire au fils. Le fait que le désir féminin se porte sur un être souverain lui donne un caractère original. Mais elle n'est pas constitutive de son objet. Elle le subit. La souveraineté du père est un fait d'ordre social. Et Freud échoue à en rendre compte. Il avoue lui-même qu'il est impossible de savoir quelle autorité décide à un moment de l'histoire que le père l'emporterait sur la mère. Cette décision représente selon lui, un progrès, mais dont on ne connaît pas les causes. Ce ne peut être ici l'autorité paternelle, puisque c'est cette autorité qui n'a précisément été conférée au père que par le progrès, écrit-il dans son dernier ouvrage, Moïse et son peuple. C'est pour avoir compris l'insuffisance d'un système qui fait reposer sur la seule sexualité le développement de la vie humaine qu'Adler s'est séparé de Freud.
Les crocs, ça fait bobo. Baby, on pleure, on crie. Tourment pour les enfants. Calvaire pour père et mère. Cauchemar pour les vieillards. Ça fait bobo. Un bec, ça serait un bec. Un bec, on veut un bec. Fauvette ou alouette. Heureux les pondeurs de Corbac ou Donadac. Enfer, les mammifères. Bistec ou gâteau sec. Les crocs, ça fait bobo. Un bec, ça serait un bec. Un bec, on veut un bec. Martyr pour les vampires. Torture pour les gros durs. Horreur pour les boxeurs. Gadab, badinamnam. Un bec, on veut un bec.
Adler entend réintégrer la sexualité dans le développement de la vie humaine. Il entend la réintégrer à la personnalité totale. Tandis que chez Freud, toutes les conduites apparaissent comme provoquées par le désir, c'est-à-dire par la recherche du plaisir. L'homme apparaît à Adler comme visant certains buts. Au mobile, il substitue les motifs, des motifs, une finalité, des plans. Il fait à l'intelligence une place si grande que souvent le sexuel ne prend à ses yeux qu'une valeur symbolique. Selon ses théories, le drame humain se décompose en trois mouvements. Il y a chez tout individu une volonté de puissance, mais qui s'accompagne d'un complexe d'infériorité. Ce conflit le conduit à user de mille subterfuges pour éviter l'épreuve du réel qu'il craint de ne pas savoir surmonter. Le sujet établit une distance entre lui et la société qu'il redoute. De là proviennent les névroses qui sont un trouble du lien et du sens social. En ce qui concerne la femme, son complexe d'infériorité prend la forme d'un refus honteux de sa féminité. Ce n'est pas l'absence du pénis qui provoque ces complexes, mais tout l'ensemble de la situation. La fillette n'envie pas le phallus que comme le symbole des privilèges accordés aux garçons. La place qu'occupe le père dans la famille, l'universelle prépondérance des mâles, l'éducation, tout la confirme dans l'idée de la supériorité masculine. Plus tard, au cours des rapports sexuels, la posture même du coït qui place la femme sous l'homme est une humiliation nouvelle. Elle réagit par une protestation virile, ou bien elle cherche masculiniser, ou bien, avec des armes féminines, elle engage la lutte contre l'homme. C'est par la maternité qu'elle peut retrouver dans l'enfant un équivalent du pénis. Mais ceci suppose qu'elle commence par s'accepter intégralement comme femme, donc qu'elle assume son infériorité. Elle est divisée contre elle-même beaucoup plus profondément que l'homme. Il n'y a pas lieu d'insister ici sur les différences théoriques qui séparent Adler et Freud et sur les possibilités d'une réconciliation, ni l'explication par le mobile, ni l'explication par le motif ne sont jamais suffisantes. Tout mobile pose un motif, mais le motif n'est jamais appréhendé qu'à travers un mobile. Une synthèse de l'adlérisme et du freudisme semble donc réalisable. En fait, tout en faisant intervenir les notions de but et de finalité, Adler garde intégralement l'idée d'une causalité psychique. L'idée d'une causalité psychique. Il est un peu par rapport à Freud dans le rapport de l'énergétisme au mécanisme. Qu'il s'agisse de chocs ou de forces attractives, le physicien admet toujours le déterminisme. C'est là le postulat commun à tous les psychanalystes. L'histoire humaine s'explique, selon eux, par un jeu d'éléments déterminés. Tous assignent à la femme le même destin. Son drame se ramène au conflit entre ses tendances viriloïdes et féminines. Les premières se réalisent dans le système clitoridien, les secondes dans l'érotisme vaginal. Infantilement, elle s'identifie au père, puis elle éprouve un sentiment d'infériorité à l'égard de l'homme et elle est mise dans l'alternative ou bien de maintenir son autonomie, de se viriliser. Vous venez d'entendre des extraits du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, extrait de la partie 1 intitulée « Destin », chapitre 2 « Approche de la psychanalyse ». Continuons de remonter le temps et allons au début du siècle, entre 1905 et 1908, avec Colette et le texte « Miroir », extrait des Vrilles de la Vigne. Le miroir. Il m'arrive souvent de rencontrer Claudine. Où ? Vous n'en saurez rien. Aux heures troubles du crépuscule, sous l'accablante tristesse d'un midi blanc et pesant, ou par ces nuits sans lune claire pourtant, où l'on devine la lueur d'une main nue, levée pour montrer une étoile, je rencontre Claudine. Aujourd'hui, c'est dans la demi-obscurité d'une chambre sombre, tendue de je ne sais quelle étoffe, olive, et la fin du jour est couleur d'aquarium. Claudine sourit et s'écrie « Bonjour, mon sosie !» Mais je secoue la tête et je réponds « Je ne suis pas votre sosie. N'avez-vous point assez de ce malentendu qui nous accole l'une à l'autre, qui nous reflète l'une dans l'autre, qui nous masque l'une par l'autre ?»« Vous êtes Claudine et je suis Colette. » Nos visages jumeaux ont joué à cache-cache assez longtemps. On m'a pris Thérésie, votre blonde amie. On vous a mariée à Willy. Vous qui pleurez en secret Renaud. Tout cela finit par lasser, ne trouvez-vous pas? Claudine hésite, hausse l'épaule et répond vaguement. Ça m'est égal. Elle enfonce son coude droit dans un coussin et comme par imitation, j'étais en face d'elle, mon coude gauche d'un coussin pareil. Je crois encore une fois me mirer dans un cristal épais et trouble, car la nuit descend et la fumée d'une cigarette abandonnée monte en nous. « Ça m'est égal !» répète-t-elle. Mais je sais qu'elle ment. Au fond, elle est vexée de m'avoir laissé parler la première. Elle me chérit d'une tendresse un peu vindicative qui n'exclut pas une dignité un tantinet bourgeoise. Onigo, qui nous confonde de bonne foi et la complimente sur ses talents de mime, elle répond raide. Ce n'est pas moi qui joue la pantomime, c'est Colette. Claudine n'aime pas le music-hall. Devant son parti pris d'indifférence, je me tais. Je me tais pour aujourd'hui seulement. Mais je reviendrai à la charge, je lutterai, je serai forte contre ce double qui me regarde d'un visage voilé par le crépuscule. Ô mon double orgueilleux, je ne me parerai plus de ce qui est à vous. À vous seul, ce pur renoncement qui veut qu'après Renaud finisse toute vie sentimentale. À vous, cette noble impudeur qui raconte ses penchants, cette littéraire charité conjugale qui vous fit tolérer les flirts nombreux de Renaud. À vous encore, non pas à moi, cette forteresse de solitude où lentement vous vous sublimez. Voici que vous avez, tout en haut de votre âme, découvert une retraite qui défie l'envahisseur. Demeurez-y ironique et douce, et laissez-moi ma part d'incertitude, d'amour, d'activité stérile, de paresse savoureuse. Laissez-moi ma pauvre petite part humaine, qui a son prix. Vous avez, Claudine, écrit l'histoire d'une partie de votre vie avec une franchise rusée qui passionna, pour un temps, vos amis et vos ennemis. Du pavé gras et fertile de Paris, du fond de la province endormie et parfumée, jaillirent comme autant de diables mille et mille Claudines qui nous ressemblaient à toutes deux. Rondes criardes de femmes enfants, courts vêtues, libérées par un coup de ciseau de leur natte enrubannée ou de leur chignon lisse, elles assaillirent nos maris grisés, étourdis, éblouis. Vous n'avez pas prévu, Claudine, que votre succès causerait votre perte. Hélas, je ne puis vous en garder rancune, mais vous n'avez jamais continué, je, tout haut, souhaité avec véhémence de porter une robe longue, les cheveux en bandeau plat. Oui, avoue-t-elle. Les joues de Claudine se creusent d'un sourire. Elle a suivi ma pensée. Mais c'était pure taquinerie contradictoire. Et puis, que vous venez-vous me parler d'imitatrice? J'admire votre inconscience, Colette. Vous avez coupé votre traîne de cheveux après moi, s'il vous plaît. Je lève les bras au ciel. Seigneur, en sommes-nous là? Vous allez me chercher chicane pour des niaiseries de cet ordre? Ceci est à moi, ceci est à toi. Nous avons l'air de jouer la robe, ô mon enfance. La robe du regretté Eugène Manuel. Ô notre enfance, soupire Claudine. Ah, j'en étais sûre, Claudine ne résiste jamais à une évocation du passé. À ces seuls mots, vous souvenez-vous, elle se détend, se confie, s'abandonne toute. À ces seuls mots, vous souvenez-vous, elle incline la tête, les yeux guetteurs, l'oreille tendue comme vers un murmure de fontaine invisible. Encore une fois, le charme opère. Quand nous étions petites, commence-t-elle. Mais je l'arrête. Parlez pour vous, Claudine. Parlez pour vous. Moi, je n'ai jamais été petite. Elle se rapproche d'un sursaut de rein sur le divan, avec cette brusquerie de bête qui fait craindre la morsure ou le coup de corne. Elle m'interroge, me menace de son menton triangulaire. « Quoi ? Vous prétendez n'avoir jamais été petite ?»« Jamais. J'ai grandi, mais je n'ai jamais été petite. Je n'ai jamais changé. Je me souviens de moi avec une netteté, une mélancolie qui ne m'abuse point. Le même cœur obscur et pudique, le même goût passionné pour tout ce qui respire à l'air libre et loin de l'homme. Arbre, fleur, animal, peureuse et doux, eau furtive des sources inutiles, la même gravité vite muée en exaltation, sans cause. Tout cela, c'est moi enfant et moi à présent. Mais ce que j'ai perdu, Claudine, c'est mon bel orgueil, la secrète certitude d'être une enfant précieuse, de sortir en moi une âme extraordinaire d'homme intelligent, de femme amoureuse, une âme à faire éclater mon petit corps. Hélas, Claudine, j'ai perdu presque tout cela, à ne devenir après tout qu'une femme. Vous vous souvenez du mot magnifique de notre ami Calliope à l'homme qui l'a supplié ? Qu'avez-vous fait de grand pour que je vous appartienne ? Ce mot-là, je n'oserais plus le penser à présent, mais je l'aurais dit quand j'avais 12 ans. Oui, je l'aurais dit. Vous n'imaginez pas quelle reine de la terre j'étais à 12 ans. Solide, la voix rude, deux tresses trop serrées qui sifflaient autour de moi comme des mèches de fouet. Les mains roussies, griffées, marquées de cicatrices, un front carré de garçon que je cache à présent jusqu'aux sourcils. Ah, vous m'auriez aimé quand j'avais 12 ans. Et comme je me regrette. Mon sosie sourit d'un sourire sans gaieté qui creuse ses joues sèches, ses joues de chat, où il y a si peu de chair entre les tempes larges et les mâchoires étroites. « Ne regrettez-vous que cela ? » dit-elle, « alors que je vous envierai entre toutes les femmes. » Je me tais, et Claudine ne semble pas attendre de réponse. Une fois encore, je sens que la pensée de mon cher sosie a rejoint ma pensée, qu'elle l'épouse avec passion en silence. Jointe, ailée, vertigineuse, elle s'élève comme le doux hibou velouté de ce crépuscule verdissant. Jusqu'à quelle heure suspendront-elles le vol sans se disjoindre au-dessus de ces deux corps immobiles et pareils dans la nuit lentement dévore les visages ? Vous venez d'entendre un texte intitulé « Miroir », extrait des « Vrilles de la vigne » de Colette. On continue sur ce début du siècle. En 1902, avec un texte de René Vivien, extrait de l'anthologie poétique de 1901 à 1903, René Vivien, aussi appelé Sappho 1900, au regard de sa métrique qui reprend les formes poétiques de la poétesse grecque Sappho. On dit aussi d'elle qu'elle est une adepte du Parnasse. Ce sera à vous de voir, ou plutôt d'écouter, avec ce texte extrait de « Cendres et poussière » en 1902.
Ressemblance inquiétante. J'ai vu dans ton front bas le charme du serpent. Tes lèvres ont humé le sang d'une blessure, et quelque chose en moi s'écœure et se repent lorsque ton froid baiser me darde sa morsure. Un regard de vipère est dans tes yeux mi-clos, et ta tête furtive et plate se redresse, plus menaçante après la langueur du repos. J'ai senti le venin au fond de ta caresse. Pendant les jours d'hiver, énervé et frileux, tu rêves aux tiédeurs des profondes vallées. Et l'on songe, en voyant ton long corps onduleux, à des écailles d'or lentement déroulées. Je te hais, mais ta souple et splendide beauté me prend et me fascine et m'attire sans cesse. Et mon cœur, plein d'effroi devant ta cruauté, te méprise et t'adore, ô reptile et déesse. Le sang des fleurs. Le soir s'attriste encore de ses clartés éteintes. Des rêves ont troublé l'air pâle et languissant. En chantant leurs amours, les pâtres, en passant, écrasent lourdement les frêles hyacinthes. L'herbe est pourpre et semble à des champs de combat. Sous le rouge d'un ciel au ton de cornaline, et le sang de la fleur assombrit la colline. Le soleil pitoyable agonise là-bas. Sans aspirer la paix des divines campagnes, je songe avec ferveur, et mon cœur inquiet porte le léger deuil et le léger regret de la muette mort des fleurs sur la montagne.
Vous venez d'entendre un texte extrait de l'œuvre poétique de René Vivien, paru entre 1901 et 1903. René Vivien était une poétesse issue d'une famille fortunée américaine et anglaise, mais elle écrivait en français puisqu'elle était à Paris. Elle a eu une courte vie et une œuvre très hétéroclite, mais toujours autour de la forme du poème. Elle a écrit un roman qui s'appelle La Dame à la Louve. Voilà, pour ceux qui seront intéressés, vous pourrez aller consulter Internet et vous en saurez davantage. On arrive au terme de l'émission. J'aurais voulu vous en lire encore des poèmes, mais on va en garder pour la semaine prochaine. Néanmoins, peut-être un petit poème de Louise Labé, ça fait jamais que du bien. Un saut dans le temps à nouveau pour une poésie, une poétesse de la Renaissance, Louise Labbé, 1526-1566. C'est elle qui disait: le plaisir le plus doux qui soit après l'amour, c'est d'en parler. C'est une femme qui a combattu sur les remparts de Carcassonne, et bien souvent elle se déguisait en homme. Elle est morte à 42 ans. Elle a légué sa fortune aux pauvres et toute sa vie, elle s'est consacrée à ses passions nombreuses et fertiles. Ne reprenez, dame, ne reprenez, dame, si j'ai aimé, si j'ai senti 1000 torches ardentes, 1000 travaux, 1000 douleurs mordantes. Si en pleurant j'ai mon temps consumé, las, que mon nom n'en soit pas par vous blâmé. Si j'ai failli, les peines sont présentes. N'aigrissez point leurs pointes violentes, mais estimez qu'amour, à point nommé, sans votre ardeur d'un Vulcain excusé, sans la beauté d'Adonis accusé, pourra, s'il veut, plus vous rendre amoureuse, en ayant moins que moi d'occasion et plus d'étranges et fortes passions, et gardez-vous d'être plus malheureuse. Ce texte de Louise Labbé est élu en ancien français, vous l'aurez sans doute compris. On retrouvera peut-être des poèmes de Louise Labbé la semaine prochaine. On retrouvera assurément des textes la semaine prochaine dans la textuelle. Bonne semaine à tous.
L'air de lune fou chante une pythonisse aux brûlants cheveux roux. Le contraste me plaît, je suis un peu poète. J'arrête la Bentley, m'avance vers la bête. Dans la forêt qui crisse, dans la forêt qui crisse au clair de lune, dans la forêt qui crisse au clair de lune, fou. Un long cri aérien qui me cloue sur la mousse, piégé comme un lapin.
ses yeux hallucinés me fixent doucement. Comme un tigre doré, cruel et innocent. Dans la forêt qui crisse, dans la forêt qui crisse au clair de lune. Dans la forêt qui crisse au clair de lune, fou. Ma boîte en argent. En reprenant le fil de son chant flamboyant. Et puis elle me dit, ton assassin t'attend. Ne va pas à Paris, reste ici un moment.